stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta let me know.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission L'écho des jeunes du mois de décembre, donc l'écho des jeunes sur 106.1 sur Bac FM. Ce mois-ci, nous allons parler de quoi, Antoine ?
Nous allons parler des tabous.
Oui, des tabous, est-ce qu'on en parle ? Alors des tabous, il y en a un peu partout dans notre société, sur certains sujets. Nous allons aborder le sujet de l'argent, combien tu gagnes ? La sexualité, la prévention des risques, des dérives aussi, avec la pornographie, les drogues, c'est des sujets qui sont parfois difficiles à aborder, et le sujet tabou en France, mais sans doute peut-être ailleurs, la mort. Donc durant toute l'émission, nous allons recevoir des invités, nous allons recevoir Jennifer Louis du Bureau Information Jeunesse sur la partie sexualité et prévention des risques, et nous allons accueillir Isabelle Domanger, chargée de prévention à Addiction France. Antoine, je te propose de commencer par le sujet de l'argent.
Merci Virginie. Alors pour commencer cette émission des tabous, nous allons donc parler de l'argent, d'où ça vient. On va d'abord revenir sur l'histoire de l'argent. La monnaie, quelle que soit sa forme, est un système universel à l'origine de l'organisation de toute économie. Elle en constitue même le point central, nous permettant ainsi d'échanger, de stocker ou de produire de la valeur. Mais l'argent tel que nous le connaissons aujourd'hui a-t-il toujours existé ?
Alors on parle souvent du troc, hein, comme les prémices de l'argent, mais vers 3500 avant Jésus-Christ déjà, les cités-états utilisaient un système de comptabilité administrative pour recenser les dettes des habitants. Puis le troc, c'est-à-dire l'échange de marchandises, se développe quelques 500 ans plus tard. La richesse de chacun correspond alors à la valeur de ce que l'on possède. Mais cette organisation est difficile à faire perdurer dans le temps, puisque les biens échangés n'ont pas forcément toujours la même valeur. À l'époque de l'Antiquité, les métaux précieux commencent à être intégrés comme monnaie d'échange.
C'est au VIe siècle avant Jésus-Christ que Crésus, alors roi de Lydie, fabrique les premières pièces qui se rapprochent des systèmes monétaires modernes. Les créséides sont réalisées à partir de résidus d'or, d'argent et de bronze et sont marquées de symboles spécifiques. La valeur de chacune diffère en fonction du métal. Une véritable révolution dans l'histoire de la monnaie qui se développera dans un premier temps chez les Grecs d'Asie mineure, puis arrivera en France au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Alors il y a une évolution de la monnaie en France depuis Crésus, hein, la lettre de change apparaît au Moyen-Âge, et puis je vous propose de faire un petit bond dans l'histoire, sinon on va faire une émission de 3 heures. Mais au milieu du 18e siècle, Napoléon réforme le système du franc, où se côtoient encore l'écu, le louis d'or et d'autres pièces. C'est le début de la monnaie unique, marquée par le franc germinal. Toujours à cette époque, la France connaît une pénurie de monnaie métallique. Bonaparte crée la Banque de France en 1800 et signe le début de la monnaie fiduciaire durable dans notre pays. Chaque billet correspond à un certain poids d'or qui est gardé et stocké dans une banque. De son côté, le franc germinal connaîtra plusieurs évolutions jusqu'à la création du nouveau franc par Charles de Gaulle en 1963. Ce dernier est remplacé officiellement par l'euro le 17 février 2002.
Mais alors pourquoi l'argent est tabou en France ? Et toi, tu gagnes combien ? Poser cette question en France, même aux amis, est plutôt mal vu. C'est considéré comme un manque d'éducation. Il est en effet mal élevé de parler d'argent et de le montrer, ou pire, de l'étaler. Si aux États-Unis et dans bien d'autres pays, les salaires s'affichent sans honte, 8 Français sur 10 pensent qu'être riche est mal perçu. Alors ils se taisent. Plusieurs raisons historiques et culturelles expliquent ce rapport particulier à l'argent.
La dimension égalitaire de la République est l'une d'entre elles. C'est sur des bases d'égalité et de fraternité que notre société s'est développée. Le droit à la santé, pour tous, est un exemple significatif. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être soigné. La religion catholique, qui fait l'éloge de la pauvreté et condamne l'enrichissement facile, a aussi laissé son empreinte sur nos comportements, en faisant de l'avarice l'un des 7 péchés capitaux. L'Église aurait encouragé les croyants à se détourner de l'argent ou à taire leurs richesses pour éviter les châtiments divins. Dans la religion protestante, il y aurait, dit-on, moins de culpabilité vis-à-vis de la richesse, elle serait vue comme un signe divin, et c'est sans doute pourquoi parler d'argent n'est pas si honteux dans les pays anglo-saxons.
Autre raison avancée pour expliquer ce rapport particulier des Français à l'argent, leur origine, majoritairement paysanne. L'habitude de garder les économies à domicile, de ne rien dire pour éviter le vol ou la jalousie des voisins, aurait influencé les mentalités. Tout cela explique pourquoi le nouveau riche, celui qui affiche de manière ostentatoire des signes extérieurs de richesse, qui est bling bling, reste assez moqué. En France, tout ce qui brille n'est pas d'or, seul le silence est d'or.
Aujourd'hui, parler d'argent est toujours mal vu ou mal interprété en France. On devrait plutôt partager plus les richesses et donc parler plus d'argent, mais pour plus de solidarité.
Merci Virginie. Avant d'accueillir Jennifer Louis, nous allons écouter Money de Pink Floyd.
Thank you. it's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away. Away, 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 away.
Certainly was in the right.
Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising.
I don't know, I was really drunk at the time. He just told me it was in Hurricane number 2. He was asking why he wasn't coming up on 3rd and 11. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming up on 3rd and 11.
De retour sur Bac FM, nous venons d'écouter Money de Pink Floyd et de suite Antoine interview Jennifer Louis, chargée de prévention au Bige sur la sexualité et la prévention.
Merci Antoine. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Alors Jennifer, tu travailles au Bige. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ton métier ?
Oui, alors le Bureau Information Jeunesse est une association qui accompagne les jeunes dans l'ensemble de leurs premières expériences. Ça peut être en lien avec une orientation professionnelle, une formation, une recherche de logement, une ouverture de droit. Et le Bureau Information Jeunesse porte un dispositif qui s'appelle le Point Accueil et Écoute Jeune, sur lequel je suis moi chargée de prévention. Donc je suis plutôt spécialisée et intervenante sur toutes les questions de santé liées aux expériences des jeunes à partir de 11 ans.
Et alors justement, à l'écho des jeunes, nous constatons que la sexualité est un sujet tabou. Et quelles sont les conséquences pour la santé des jeunes ?
Alors le fait que ce soit tabou, ça va poser plusieurs problématiques. Déjà, le fait de ne pas pouvoir poser ces questions et du coup rester parfois dans des interrogations, voire pire, prendre des risques de peur d'interroger des professionnels ou nos camarades là-dessus. Et puis, au-delà de la prise de risque, il y a aussi parfois des méconnaissances qui vont peut-être conduire à de la stigmatisation, à de la discrimination, à des propos violents, à du harcèlement, etc., envers les personnes qui, du coup, n'ont pas de problème à en parler.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe, alors que nous sommes entourés d'images publicitaires avec des femmes et des hommes assez dénudés, que ce soit un sujet tabou ?
Et si, on a une grosse problématique autour de l'hypersexualisation des corps, que ce soit ceux des corps des femmes ou des hommes. Et du coup, ça va engendrer des problématiques, puisqu'on va avoir ce regard-là sur des corps, sur de la sexualité. Et à défaut, on ne va pas oser en parler. Et du coup, on va évoluer, grandir, se développer avec des idées préconçues autour de la sexualité. Et une des interrogations qui va potentiellement revenir, c'est déjà pourquoi je suis différent que le corps que je vois à la télé, je ne me connais pas, et du coup ça va engendrer effectivement tout un tas d'interrogations qui peuvent poser problème.
Et justement, on peut passer à la pornographie avec ce sujet-là. Par exemple, l'âge moyen de la première exposition à du contenu pornographique serait de 10 ans.
Oui, effectivement, en général, ça va avec l'entrée au collège, parce que du coup, il y en a un qui a eu accès et qui du coup va montrer à ses copains des images que lui a vues, tout simplement parce qu'il ne sait pas gérer ses propres images-là. Il va pas savoir si c'est de la blague, de la réalité, et du coup, il va y avoir toute une confusion dans le message que va renvoyer la pornographie, qui peut effectivement causer de grosses problématiques, notamment de violence et de développement dans la sexualité.
Et justement, qu'est-ce que ça peut produire sur leur cerveau à eux individuellement ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir un phénomène d'addiction. C'est-à-dire qu'au plus je vais voir de la pornographie, au plus je vais avoir besoin de me nourrir de cette pornographie pour moi évoluer dans ma sexualité. Donc ça, c'est un premier risque. Le second, c'est qu'effectivement, on va développer des pratiques potentiellement dangereuses. C'est-à-dire qu'on peut rentrer ensuite dans de la violence lors du rapport sexuel avec un partenaire qui n'est pas forcément consentant pour ces violences-là. Et troisièmement, on va prendre des risques qui sont liés à l'image qu'on voit. C'est-à-dire que c'est rare dans la pornographie de voir des acteurs qui utilisent des préservatifs. Donc si eux n'en utilisent pas, du coup je vais imaginer que j'en ai pas besoin et du coup potentiellement développer tout un tas d'infections sexuellement transmissibles liées à la non-utilisation du préservatif.
Oui, et alors du coup les jeunes qui sont exposés à ce contenu, par exemple à 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à la pornographie, et aujourd'hui il n'a jamais été aussi facile pour les mineurs d'accéder à des contenus pornographiques de manière délibérée ou accidentelle.
Et, oui.
Et comment on peut éviter ça du coup ?
Alors effectivement, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'elle est intimement liée à l'éducation qu'on va recevoir. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à pouvoir en parler avec des adultes, que ce soit dans la famille, mais c'est pas toujours simple d'en parler dans l'environnement familial. Donc on peut en parler aussi à des professionnels. Par exemple, au collège, l'infirmière scolaire est tout à fait en capacité de rappeler que la pornographie et les films qu'on regarde, ce sont bien des films et qu'il y a bien des acteurs et que du coup tout ça est encadré. Effectivement, ce n'est pas un rapport standard qu'on peut avoir. Il y a aussi tout un risque au-delà de ça qui va avec la diffusion d'images pornographiques ou la diffusion de nudes, donc des personnes qui vont se prendre en photo, qui vont les envoyer à leurs partenaires et qui eux-mêmes vont les retransmettre à tout leur cercle de copains. Et là, du coup, la problématique est qu'il faut absolument interroger et interpeller un adulte là-dessus pour être protégé, pour que notre image soit protégée et du coup retirer ces photos qui peuvent circuler.
Et toi qui côtoies des jeunes au quotidien, quels sont leurs points de repère aujourd'hui ?
Vaste question. Quand ils ont la possibilité d'avoir un environnement familial qui leur permet d'interroger et d'être renseignés, du coup, là, heureusement, on va avoir des discours plutôt prévenants. Ou alors, tout au contraire, des personnes qui ne veulent pas du tout aborder ce sujet-là. Et du coup, on va avoir des enfants qui grandissent sans aucune idée de ce qu'est une sexualité, je dirais, classique. Ensuite, comme je le disais, donc les infirmières scolaires, effectivement, sont des points de repère puisqu'elles ont une formation sur ces thématiques-là et donc peuvent à un moment donné aussi resituer un cadre pour un jeune qui n'en aurait pas. Et évidemment, tous les professionnels des associations du sujet qui vont travailler dans la Nièvre, je pense effectivement à nous, au Bureau Information Jeunesse, au Centre de Planification et d'Éducation Familiale, au Centre de Dépistage, à des associations comme AIDS qui peuvent aussi à un moment donné réinterpeller et informer sur les différents risques, ce qui est tolérable, ce qui ne l'est pas, ce qui est problématique ou ce qui ne l'est pas.
Super, merci beaucoup Jennifer.
Merci à
tous les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez donc pas à passer aux biges si vous avez des questions ou des avis, des remarques sur la sexualité ou la pornographie, puisque ce sont deux sujets à ne pas prendre à la légère et qui ne doivent aujourd'hui plus être tabous. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci encore.
Si je peux rajouter une dernière chose, moi et ma collègue Océane Hommage, on travaille toutes les deux aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, donc les jeunes peuvent aussi bien évidemment nous envoyer un petit message privé si c'est compliqué parfois pour eux de se déplacer, et nous on pourra les réorienter et les accompagner.
Et à préciser aussi que c'est anonyme.
Bien sûr,
les rencontres même.
Tout à fait, c'est anonyme, confidentiel, gratuit. On n'informera pas vos parents si vous avez une interrogation là-dessus. Effectivement, sauf s'il y a une notion de danger. Mais là, si c'est une simple interrogation ou le fait d'être accompagné vers un centre de planification et d'éducation familiale, ça peut tout à fait être fait en tout anonymat.
Merci beaucoup, Jennifer Louis, d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes donc chargée de prévention au BIJ.
Merci à vous.
Et tout de suite, avant de passer aux drogues, on s'écoute Angèle, oui ou non ?
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux. Mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être mais au plus je ris. Tu me feras marcher. C'est oui ou
pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes. Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
De retour sur Bac FM, nous venons d'écouter Oui ou Non de Angèle. Vous écoutez évidemment votre émission préférée, L'Écho des Jeunes, et je suis accompagné de Isabelle Domanger, chargée de prévention à Addiction France. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors, expliquez-nous, quelle est votre fonction ?
Alors, au sein de l'association, donc, j'ai deux casquettes. Je suis aidée consultante en addictologie, donc je reçois des gens en soins pour les aider à atteindre leurs objectifs. Pas les miens, moi je suis pas là pour forcer quelqu'un à arrêter quelque chose qu'il ne souhaite pas. Je suis là pour l'accompagner justement à atteindre cet objectif, si c'est ça. Hein, ça peut être juste sinon réduire, ou juste des informations, c'est tout. L'autre casquette, du coup, je suis également animatrice de prévention, donc j'interviens auprès de différentes structures, auprès de différents publics, sur des plusieurs séances, sur du multiséance auprès de, voilà, de ces publics-là, pour aider à réfléchir sur où est-ce que j'en suis peut-être de mes consommations, et surtout aider à mettre en place des choses pour faire des choix éclairés pour sa santé. De façon très générale, voilà, ce sont mes missions.
Très bien. Et quelles études avez-vous suivies pour cela ?
Alors, à la toute base, je suis de formation assistante sociale. Donc là, c'est un bac plus 3, du coup, voilà, diplôme d'état d'assistante sociale.
D'accord. Et depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Alors là, j'ai mon diplôme, je suis assistante sociale depuis 2008, hein, mais je suis association Addiction France. Depuis, là, ça va faire 6 ans.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement Addiction France, que c'est potentiellement son histoire ?
Alors, c'est une association de loi 1901 qui est reconnue d'utilité publique et d'éducation populaire. Et là, cette année, nous fêtons déjà nos 150 ans. Alors, au fur et à mesure de l'histoire, on a changé beaucoup de nom. Donc, les gens ne se souviennent pas forcément de ce nom-là. On a changé assez récemment, là, il y a 3 ans bientôt. On a changé et d'identité et de logo. Avant, on était ANPA, hein, Association Nationale de Prévention en Alcoolologie et Addictologie. Au tout début, on se chargeait plutôt de traiter les problématiques d'alcool. Sauf que, on va dire, depuis les années à peu près 2000, nos missions se sont vraiment renforcées et on intervient pour tout ce qui est maintenant tous les produits psychoactifs, ainsi que pour tout ce qui est dépendance comportementale, les écrans, les jeux d'argent, le travail, le sexe, comportement au niveau alimentation, et puis tout ce qui est achat compulsif, etc. C'est très large.
Très bien. Maintenant, la question essentielle pour notre chronique, c'est pourquoi la drogue est tabou ?
Alors, souvent, je pense qu'au niveau de la drogue, on peut mettre dedans aussi l'alcool, mais de façon très générale, la consommation de produits psychoactifs, il y a des gros risques qu'on se sente jugé. Les gens peuvent facilement mettre une étiquette sur la tête de la personne. Ah bah tiens, toi t'es alcoolo, toi t'es toxico. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets, enfin c'est très tabou par rapport à ça, par rapport à l'image que ça peut renvoyer. Après, c'est tabou parce que on a une grosse partie aussi des drogues qui sont des produits stupéfiants, c'est illicite, effectivement, de dire « ouais, tout fort, moi je consomme, j'ai pas le droit, mais je m'en fiche ». C'est pas forcément évident, on n'a pas forcément envie non plus de le crier sur tous les toits.
Bien sûr. Donc j'aimerais axer notre émission sur la jeunesse et la drogue et vous poser plusieurs questions sur une ambiance que je trouve malsaine entre ces deux choses. Vous commencez à intervenir dès quel âge ?
Alors, on va dire depuis la primaire. Alors, ça peut surprendre. Primaire, on va pas aborder du tout hein, les choses de la même façon qu'avec un public plus jeune ou même enfin quasi adulte ou adulte. Hein. On intervient maintenant de l'école primaire jusqu'à la maison de retraite. Là, en ce moment, on est beaucoup sollicité pour intervenir sur tout ce qui est écran, problématiques liées aux écrans. Il y en a de plus en plus. Voilà.
D'accord. Et est-ce que votre travail est suffisant? Disposez-vous d'assez d'heures pour une prévention efficace?
Alors, au niveau de l'association, on a plusieurs personnes en prévention, notamment, qui interviennent. On a en tout, on est 5 personnes, donc ça fait 4 équivalents temps plein, c'est déjà pas mal. Après, bien évidemment, on pourrait toujours demander plus, mais là, voilà, on arrive à intervenir auprès de tout public, que ce soit le milieu scolaire, le milieu hors scolaire. Moi, par exemple, j'interviens aussi à l'école de la seconde chance, en mission locale, enfin auprès du CEJ, dans tout ce qui est chantier d'insertion, aussi milieu du handicap, pardon. Donc voilà, on essaie de toucher toute la population et de faire au mieux.
Est-ce que lors de votre intervention, vous expliquez de manière vulgarisée les raisons scientifiques des effets d'une drogue ?
Alors, ça peut être ça. Effectivement, donner des informations, je veux dire, ça c'est une première partie de notre travail. Après, si on se contente juste de donner des informations et point barre, pour moi, c'est pas une prévention efficace. Là, depuis plusieurs années, on a changé notre façon d'intervenir. Après, avant, c'est ce qu'on faisait, hein. On allait dans les classes, bonjour, je parle 2 heures de l'alcool, c'est pas bien, faut pas boire. Pareil pour le cannabis. Le discours a vraiment changé puisqu'on s'est rendu compte que ce type de prévention était pas du tout efficace. Donc là, effectivement, une partie de notre travail dans la prévention, c'est donner des informations, mais pas que. C'est vraiment essayer de faire réfléchir les personnes. Où est-ce que j'en suis? Et surtout, de les faire travailler sur nous, ce qu'on appelle dans le métier les compétences psychosociales, des compétences de vie que chacun a. Être en mesure, par exemple, d'avoir un esprit critique, d'avoir un esprit créatif. Si, par exemple, tiens, je suis confronté à un problème, qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer, en tout cas, de le régler? C'est vraiment essayer de faire des choix éclairés pour soi-même. On n'est pas là pour obliger les gens et leur dire faut faire ci, faut faire ça.
Bien
non,
sûr.
C'est eux qui décident. Et notre mission, c'est voilà, de leur donner les moyens de décider.
Très bien. Et est-ce que vous faites face à des jeunes intéressés ou ignorants? Quel est le comportement des jeunes?
On a les deux. Alors, nous, notre façon d'intervenir au niveau de la prévention au sens très large du terme, hein, pas que Addiction France, on essaye vraiment d'utiliser des jeux, des outils qui vont mettre en action les personnes. Bon, des fois aussi, ça fait un petit peu rire, c'est pas mal, mais c'est surtout les faire participer pour retenir des choses, se souvenir de, tiens, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'on a travaillé, en fait, ensemble, sans forcément s'en rendre compte. C'est aussi favoriser ce que peuvent nous dire les personnes, par exemple, partager des expériences. Bah, tiens, moi, j'ai vécu ça, etc. Ce sont vraiment notre façon d'intervenir. C'est une approche expérientielle aussi. Donc voilà, on essaye de cette façon-là qui moi, je trouve est sympathique et pour les jeunes et pour nous en tant qu'intervenants. Après, on n'oblige pas les gens à être intéressés, mais on essaye de faire en sorte, en tout cas, voilà.
Donc, s'il y a bien une drogue, et j'ai vu que vous l'avez séparée des drogues, qui est surprésente en France et notamment chez les jeunes, c'est l'alcool.
Ouais.
Est-ce qu'on a un rapport trop léger à l'alcool chez nous? Est-ce que l'alcool n'est pas assez tabou en France, finalement?
Alors, je dirais pas un rapport trop léger, et puis que c'est pas forcément assez tabou. Je sais pas s'il faut trop tabou, pas assez tabou. Enfin, moi en tout cas, je dirais plus on en parle, mieux c'est. Plus on en parle, mieux c'est. Mais ce qui est compliqué au niveau de l'alcool, c'est que c'est un bien quand même culturel, surtout dans notre région, où on a quand même beaucoup de viticulteurs, donc ça peut être compliqué, par exemple, si on intervient dans une classe avec des élèves dont les parents sont viticulteurs, bah effectivement, oui, là, ça peut être compliqué. Mais moi, je suis tout à fait... Enfin, on n'est pas là, comme je le disais, on n'est pas là pour dire « bouh, c'est pas bien l'alcool ». C'est du coup, plutôt, où est-ce que j'en suis de mon rapport et est-ce que je peux consommer et de quelle façon? De façon la plus sécurisée, sécurisante possible. Mais pour l'alcool, mais comme pour les écrans, le but, c'est pas de dire « c'est pas bien les écrans
oui. ».
C'est comment est-ce que je peux jouer ou utiliser ça de la bonne façon. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait plus en parler, justement, et essayer peut-être de parler de bah, « tiens, pourquoi je consomme ?» Pour moi, pour faire comme les copains, pour les autres, c'est d'essayer plutôt de réfléchir à ça. Est-ce que c'est pour régler, réparer un truc, oublier un truc?
D'accord. Et du coup, est-ce que c'est grave de boire une gorgée de champagne à 11 ans juste pour goûter?
Je dirais que c'est pas gravissime en soi. Mais là où il faut être vigilant, c'est que par exemple, on a dans notre culture française, notamment, pas que, mais là on parle du coup de notre culture française, on a des petites habitudes comme ça, où bah tiens, on va faire téter le bouchon de champagne au bébé quand, par exemple, il est baptisé. C'est pas grave en soi, mais toutes ces petites choses-là, où par exemple, tiens, bah tu vas boire de l'alcool, mon fils, t'es un grand,
ouais.
Des petits rites de passage, des habitudes comme ça, culturelles, qui vont rendre banale, en fait, la consommation d'alcool. Et je dirais, c'est là où est le danger. Donc, en soi, boire un petit verre comme ça, tiens, je te fais goûter à 11 ans, c'est pas le drame, mais ça peut permettre de banaliser la consommation pour plus tard et où bah, ça devient normal, en fait.
Ouais, d'accord. Donc le danger est dans la banalisation, mais pas pour le corps, disons.
Alors pour le corps quand même aussi, oui,
oui.
Si. Parce qu'à 11 ans, à 11 ans, on n'a pas le corps, et notamment, alors c'est le foie hein, qui va gérer, qui va éliminer l'alcool, c'est pas développé comme un adulte, par exemple, et d'une. Et de deux, au niveau du cerveau, le cerveau va se développer jusqu'aux 25 ans à peu près de la personne. Si on amène un produit psychoactif, l'alcool c'est un produit psychoactif, c'est-à-dire que ça va modifier la façon dont notre cerveau fonctionne, dont on va réagir et percevoir notre environnement, mais si on apporte à notre cerveau un produit qui va modifier la façon dont il fonctionne, eh ben on peut en tout cas laisser la porte un petit peu plus ouverte pour plus tard à des comportements, soit de consommation d'alcool ou d'autres choses. Pourquoi pas de l'addiction, même carrément. Donc voilà, le risque aussi est bien évidemment physique.
Ouais. Et on parlait justement de cette tradition en France de l'alcool, et quelle est votre réaction face à des émissions comme Recette Pompette ?
Sur le principe, moi j'en ai déjà regardé un petit peu, pas en entier, hein, effectivement, oui, c'est drôle, ça, on rigole. Mais je reviendrai un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, le risque, c'est la banalisation, justement, de ces consommations-là. Et de rendre en plus le produit fun, sympa, léger et, pour être cool, il faut que je sois bourré, quoi. Bah non, c'est dommage. Là aussi, pour moi, on est dans la banalisation. Donc, pour moi, le danger est là.
Alors moi je suis fan de rap, et moi la question que je me pose, c'est est-ce que certains rappeurs qui prennent les sujets sans pincettes et sans prévention, ça dessert votre travail? Est-ce que vous sentez un impact de cette culture chez les jeunes?
Alors moi je dirais le sans pincettes, je suis pour.
Ah d'accord.
Dans le sens où, pour moi, ça va dans le sens à aller, on rend moins tabou le truc. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Donc moi, en tout cas, pendant mes interventions, ça me pose pas de souci de verbaliser les choses, poser les choses. Et je pense que c'est important parce que souvent, peut-être les jeunes, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, s'attendent à ce discours, bouh, c'est pas bien, etc. Non, je pense qu'il faut poser les choses. Par contre, là où est le danger, effectivement, c'est dans la banalisation.
D'accord.
Et rendre mode un petit peu la consommation.
C'est ça qui
là,
se
je
passe,
dirais, ça c'est dommage, effectivement.
Alors, toujours du côté de l'art, on a des séries, et en général, on a l'admiration pour les grands cartels et les plus grands dealers. Comment on pourrait expliquer ça? Et est-ce que vous, ça vous pose problème?
Alors, moi, je dirais, ça me pose problème dans professionnellement parlant, dans la pratique, dans le sens où l'adolescence, c'est un moment de la vie qui peut être compliqué, où on peut être en recherche de qui on est, tester ses limites. Ça peut être une période aussi où on n'a pas forcément confiance en soi. Et c'est vrai que dans ce genre de série d'émissions, où il y a, alors même ça peut être des jeux vidéo, hein, certains interdits au moins de 18 ans dont je tairai le nom, mais où justement la drogue est banalisée, et c'est même du coup, faut vendre, faut être un dealer pour être quelqu'un de bien. On va rechercher peut-être d'essayer de trouver des modèles. Et là est à nouveau encore pour moi le risque. Après, il y a des séries qui peuvent être intéressantes, hein, je trouve quand même, parce qu'elles parlent de certains fonctionnements au niveau de la drogue. Il y a des choses des fois même un peu crues qui peuvent faire écho à certains jeunes. Donc je pense que en partie, certaines séries peuvent peut-être aider pour conscientiser certaines choses. Bah tiens, je me retrouve dans tel et tel personnage, etc. Mais là où, voilà, j'en reviendrai, hein, pour moi, où faut faire attention, faut être vigilant et arriver à dissocier le film, la série, le fictif de la réalité. C'est pas parce que je vais devenir un parrain de la drogue que wouh, ça y est, je vais avoir plein de billets, plein de thunes et que ça va être génial pour moi. Ah, effectivement, ça peut rapporter de l'argent, mais on a des risques qui sont aussi très importants, bien évidemment, en termes de justice. Hein, déjà rien que
sûr,
ça, hein, tout simplement, rien que ça.
Bien, aujourd'hui, on sait que de nombreuses drogues en France ne sont pas considérées comme illégales, que la chimie évolue et que les molécules sont légales dans certains pays, mais pas dans d'autres, par exemple. Alors, qui gère l'interdiction de molécules en France?
En gros, là, ça va être le gouvernement.
D'accord.
Ça va être le gouvernement. Après, pour certaines substances, je pense plutôt notamment aux médicaments, vous avez justement une agence hein, qui valide la régulation de l'utilisation de certaines substances dans les médicaments. Voilà, mais ça va être l'État pour l'instant.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle. Je rappelle que vous êtes chargée de prévention à Addiction France. Et on va finir sur une question peut-être plus rigolote que le reste de l'interview. Peut-on avoir de bonnes dépendances?
Alors, je dirais sur le principe, la notion de dépendance, non, c'est pas terrible, terrible du coup. Donc, il n'y aurait pas forcément de bonne dépendance. Mais, fort bonne question.
Exemple, moi, je dis, je suis addict à la vie. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ah, là, oui. Alors, si, voilà, parfait. Si, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, effectivement.
Super, Antoine, merci. Merci, Isabelle, donc, pour cette interview. Et de suite, on s'écoute Rail de musique de Stromae.
Tous tous les matins, je prends un bol de musique et une tasse aussi. Ensuite j'enfile une partition et je ferme ces boutons à la si. Je me dépêche, sinon je serai en retard. Quand j'ai terminé, je file en bas, chaude dans ma caisse à infrabasse et je roule à une vitesse de 100 000 watts. Je fuis, j'arrive, je bosse et je mixe des coups de fil. J'écris, compose et réponds à mes mails Audi. Ensuite, je me nourris du son dans la boîte à rythme. C'est la pause, c'est le demi-midi, c'est l'heure de la mute. Ouais, c'est ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, ma clope, mon shit, ma dose. Ma weed, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique. Tous les après-midi, midi, je reprends une tasse tout de suite. Je fais comme si j'envoyais des mails et des mails et des mélodies pour que le temps passe vite, mais s'il ralentit, mon métronome me le dit. Mais c'est ma tête qui le pense, ou bien qui le crie, qu'elle est pressée d'être partie. Mais cette fois-là, pédale à fond, en vain, ce sont les bouchons qui marquent le tempo, rythme des klaxons. Et dans le fond, une chanson qui rappelle le silence d'un soleil en décrescendo, en crescendo demain. J'espère que je me lèverai tôt pour que j'obtienne ma dose, que je m'injecte un micro, que j'en sois accro et que j'en crève. Parce que je me lèverai tôt et je m'injecterai ma dose de micro d'overprose jusqu'à ce qu'il soit mes rêves. Soit mes rêves, soit mes rêves. Jusqu'à ce qu'il soit mes rêves. Soit mes rêves. Ma musique, ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, ma clope, mon shit, ma dose, ma weed. Ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique. Ouais, c'est ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, oui. Ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, 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 ma musique.
De retour dans l'écho des jeunes, donc l'émission sur les tabous. Nous allons finir avec un sujet dont on parle parfois, dont on parle des fois en murmurant le nom, la mort. Bien que faisant partie du cycle naturel de la vie et étant inévitable, la mort est un sujet difficilement abordable dans nos sociétés. Puisqu'elle est inconnue et irréversible, la mort fait peur et nous évitons généralement d'en parler. Alors que nous aimons tout contrôler dans notre quotidien, la mort devient le seul élément sur lequel nous n'avons pas d'emprise.
Parler de la mort est-il tabou ?
Alors plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que la mort soit un sujet tabou dans nos cultures. L'inconnu fait peur, comme on l'a dit, les superstitions sont nombreuses et parler de la mort nous renvoie inévitablement à notre propre fin, que nous préférons tous repousser le plus possible.
Sommes-nous prêts à affronter la mort ?
Alors, il y a quelques siècles, les décès avaient généralement lieu à domicile et la famille accompagnait le défunt jusqu'à son dernier souffle. Les gens étaient plus souvent exposés à la mort. De nos jours, près de 80% des décès ont lieu à l'hôpital ou en EHPAD, dans les maisons de retraite. Nos sociétés ne veulent plus voir la mort, l'affronter en face. Le fait de l'éloigner de plus en plus ne fait que renforcer la peur que l'on peut en avoir et donc le tabou autour de ce sujet.
La mort est-elle vraiment imprévisible ?
Alors, s'il est certain que la mort peut survenir à n'importe quel instant, de nombreuses superstitions existent à ce sujet et nous laissent croire que l'on peut prévoir son arrivée. Ainsi, croiser un chat noir ou un corbeau, marcher sur une tombe, voir un oiseau entrer par la porte ou un miroir qui se brise, seuls seraient de funestes événements annonciateurs d'une fin prochaine. Le fait qu'il s'agisse d'événements pouvant avoir lieu tous les jours renforce également le tabou autour de la mort.
Mais comment aborder le sujet de la mort ?
Alors, selon les croyances qui régissent ou non nos vies, aborder le sujet de la mort peut être facile. Par exemple, la religion peut aider certains croyants à avoir moins peur de la mort, et par extension de la mort en général, en leur donnant espoir d'une résurrection ou d'une réincarnation. Cet espoir les aidera à surmonter cette épreuve de la vie. Pour certaines personnes, parler de la mort aide à s'apaiser ou à se délester d'un poids, à en avoir moins peur, tandis que pour d'autres, il faut absolument éviter le sujet qui peut rapidement devenir une source d'angoisse.
Est-ce que le tabou de la mort est lié au tabou du deuil ?
Alors c'est vrai qu'au-delà du tabou de la mort, le tabou du deuil est également présent. On n'ose pas imaginer la peine que nous pourrions ressentir lors de la disparition d'un proche et encore moins en parler. Certains d'entre nous ont également peur de ne pas ressentir cette peine et donc de paraître insensibles. Dans l'autre sens, comme nous ne savons pas ce qu'il se passe après notre propre mort, lorsque nous l'évoquons, c'est généralement sous le prisme du deuil de nos proches.
Mais alors, que penser de ce tabou ?
Alors, le sujet de la mort ne devrait pas être un tabou. À l'origine, ce mot désigne les sujets que la religion interdisait d'aborder car elle les considérait comme sacrés ou impurs. Puis par extension, le mot désigne tous les sujets que nous évitons d'aborder par la crainte ou par pudeur. Or, la mort fait partie de la vie. Et l'évoquer ne devrait pas être un tabou. Elle peut faire peur, intriguer, ou on peut ne pas vouloir en parler, mais il devrait être possible de dire que nous ne souhaitons pas en parler. Vous avez tout compris de la dernière phrase ?
Mais complètement, ouais. Virginie.
Elle est très très bien.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette chronique sur la mort, sujet pas toujours très facile à aborder, comme on vient de le voir. En tout cas, merci pour cette émission, parce que du coup, parler de tabou par définition, c'est pas toujours simple. En tout cas, vous l'avez très bien préparé. Juste rajouter que Addiction France fait des consultations pour jeunes consommateurs qui sont aussi gratuites et anonymes. Vous trouverez toutes les références d'Addiction France sur Internet. Le bureau Information Jeunesse est prêt à vous accueillir aussi de manière gratuite et anonyme, y compris sur les réseaux sociaux, pour poser toutes vos questions et surtout envisager la sexualité pour vous protéger et donc de pouvoir vivre une vie de jeune, on va dire, youpi tralala. Et donc, merci à vous, merci à Bac FM, merci à Laetitia derrière la vitre de nous avoir guidés comme d'habitude d'une main de maître. Et puis rendez-vous à l'année prochaine.
C'est vrai ça.
Et oui.
Et bien bonne fête.
Oui, bonne
garçons.
Fête de fin d'année.
Joyeuse Pâques.
Et moi je propose que pour la fin de cette émission, on s'écoute Petit Papa Noël.
Magnifique.
La belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi.
Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble.
I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?